Alors que le grillon grillonne, que la lune commence à luner et que la nuit s'affaire à nuitée à donf jusqu'à s'en oxyder les parois vaginales, des choses se produisent dans un couloir du palais royal où nous retrouvons nos amis, le capitaine Prinkles et le ministre Gonzague.
Comme je vous le disais précédemment, ministre, aussitôt que nous serons allés trouver l'ancien régent, je vous mènerai tous deux en sécurité dans la milice pour vous protéger de paix.
Ce plan est certes bienveillant, mais il ne me laisse pas assez de temps pour préparer d'éventuels bagages.
Vous pourrez toujours vous faire expédier quelques affaires depuis la tour par après, mais il est urgent que je vous mette à l'abri. Paix a fait une victime dans ce palais chacun de ces deux derniers soirs, et il se pourrait même qu'il surgisse de nulle part à tout moment pour tenter de vous assassiner.
Comme en sortant subitement de derrière une statue, profitant de l'effet de surprise que procure ce couloir sombre.
Par exemple, oui.
Oh, ben justement...
Halte, criminel! Prends ça!
Aïe, mais ça va pas! Vous m'avez fait une coupure au bras! C'est super profond et ça pique!
Bien joué, capitaine! Vous avez maîtrisé ce P extrêmement facilement!
Cela n'avait rien de dur, monsieur le ministre. Et je dois dire que je suis fortement déçu. Ce tueur qui se joue de la milice depuis si longtemps n'est en fait qu'un nabo.
C'est vrai qu'il n'est pas très grand, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il a su surprendre ses victimes.
Je vous emmerde! Ils ont tous mérité de crever!
Cela suffit! Parle, P! Qui es-tu? Et pourquoi signer tes morts de la lettre P avant de les sodomiser?
La lettre P est tout simplement la première lettre de mon nom. Je l'ai gravée pour que les cibles restantes de ma liste se rappellent de moi et tremblent en sachant que leur tour viendrait. N'a-ce pas été votre impression, ministre?
Mais je ne vous connais pas, mon petit. Quel est votre nom?
Je me nomme... Penisio.
Qui ça?
Vous le connaissez, ministre?
Non, absolument pas. Vous êtes sûr qu'on se connaît, monsieur Penisio?
Bien évidemment! Vous n'avez donc pas compris?
Ben non, moi je pensais que la lettre P voulait dire princesse.
Penisio est mon nom de renaissance. Mais avant, j'étais la personne que l'on nommait... Utérine.
Utérine?
Oui, rappelez-vous, j'avais une opération de changement de sexe programmée. Du coup, tout était logique. La lettre P, le nom Penisio, utérine devenue homme. Avouez que c'était bien trouvé, non?
Oui, si vous voulez, mais comment étais-je ne fût-ce que supposé deviner que la lettre P se rapportait au nom de Penisio et que ce même nom se rapportait à vous, utérine?
Ah merde, ouais. Dans ma tête, ça semblait logique pourtant.
Navré d'interrompre vos retrouvailles, mais j'aimerais qu'on m'explique. Qui est cette Utérine et pourquoi ces meurtres?
Eh bien, Utérine était la fille de l'ancien régent et elle nous a accompagnés lors de l'expédition visant à assassiner la princesse dont je vous ai parlé.
Je ne me souviens pas que vous l'ayez mentionnée parmi les membres du groupe.
Oui, je suis confus, j'ai oublié. Cette jeune fille s'était incrustée au dernier moment et ne faisait pas officiellement partie de la mission, voyez-vous. Nous l'avions juste emmenée pour occuper les gardes de la princesse. Du coup, je n'ai pas vraiment pensé à elle lorsque nous énumérions les membres de...
Juste pour occuper les gardes, nous y voilà. Vous m'avez traité comme une moins que rien. Vous m'avez tous abandonné aux gardes qui me violaient. Même le scribe, lorsqu'il est passé en courant pour vous rejoindre, ne s'est pas arrêté pour m'aider. C'est pour ça que je l'ai tué aussi, comme les autres. Vous êtes tous que des goujats.
À cause d'un viol, ce n'est que ça. Vous ne pouviez pas porter plainte comme tout le monde. Et je suppose que la sodomie était une autre façon de vous venger de cet outrage.
Oui, et puis bon, j'avais une bite neuve, alors autant la rentabiliser. Et je suis d'ailleurs fière d'avoir pu prouver ce que j'ai toujours soutenu. La femme que je suis a pu égaler les hommes. Une égalité absolue.
Cette personne est manifestement complètement dérangée.
Absolument, elle fait de ces histoires d'égalité une vraie obsession, si bien que je m'étonne de ne pas avoir pensé à elle comme coupable potentiel. C'était pourtant évident.
Oui, c'était ce que mon plan prévoyait, mais vous avez tout gâché en ne devinant pas.
Les plans qui fonctionnent à 100% n'existent que dans les fables, Penisio. Par ailleurs, vous êtes à présent en état d'arrestation. Venez là, je vais vous attacher les mains, puis vous comparaîtrez devant le roi pour qu'il vous juge et vous emprisonne. Allez!
Pardonnez-moi, capitaine, mais je crains que cette idée ne soit pas excellente.
Expliquez-vous.
Ce Penisio est au courant de la mission de meurtre que nous avons menée contre la princesse. Et bien que celle-ci et son père, le roi, furent jadis en froid, il me semble quand même peu raisonnable de le laisser s'exprimer quant à cette opération, non?
Je comprends. Dans ce cas, je vais le bâillonner et nous demanderons au roi de pouvoir le jeter aux oubliettes.
Quoi? Non, mais non, 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 je peux vous sucer si vous me laissez partir. Non, pitié, non, 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 non!
Voilà. Le roi est-il déjà endormi ?
Je ne pense pas. Il doit être dans la salle du trône, je crois. Venez, c'est par ici. En tout cas, j'avoue être plutôt content du dénouement de cette histoire. Cela fait un tracas majeur en moins.
La milice est toujours fière d'aider le royaume, monseigneur.
Ah, nous y sommes. Cette petite porte annexe donne sur la salle du trône. Bonsoir, sire. Pardon de vous importuner.
Oh, le ministre Gonzague, vous allez bien ?
Oui, merci, sire. Félicitations pour votre nez, qui est manquant. C'est très audacieux.
Merci, hein, oui, avec de sex appeal, tout ça, tout ça. mais ceci dit, qu'est-ce qui vous amène, hein ? Et qui est donc ce drôle de petit prisonnier que vous traînez là ?
Eh bien, sire, figurez-vous que...
Cette entrée fracassante n'était nulle autre que celle du sombre cocher du terrifiant carrosse qui venait de s'arrêter devant le château. Le dit cocher, ténébreux et baignant dans quelques restes de vapeur orange et sans aucune hésitation dans sa démarche, s'avança lentement vers un roi à la fois ébahi et inerte que ce spectacle ne semblait pas pousser à réagir, restant en fait immobile sur son trône. D'un pas lourd et presque assommant, l'obscur personnage finissait de se placer juste devant le souverain, puis il sortit de sa cape une plume et un étrange parchemin qu'il tendit au monarque avec autorité.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui est ce type et que fait-il ?
J'ignore qui il est, mais je m'y connais assez en documents officiels que pour savoir, même en me tenant à cette distance, qu'il s'agit d'un acte d'abdication que ce spectre tente de faire signer à notre roi ! Mon Dieu, c'est un coup d'État !
Oh ta gueule, toi ! Gardez un œil sur le prisonnier, ministre !
Compris !
Oh là, étranger ! Veuillez vous éloigner de notre roi et décliner votre identité ! Qui êtes-vous ?
Quelques jours plus tôt, au pied de la montagne du Mage.
Dans le bruit des sabots percutant le sol rocailleux et du crissement des essieux rouillés, arrivait lentement un sombre carrosse, plus énigmatique que jamais. Le dit véhicule avait mis bien des jours pour arriver à cet endroit qui semblait manifestement être sa destination, passant par les petits chemins déserts, quitte à faire de longs détours, et ceci au pas lent, comme faisant tout pour éviter d'attirer l'attention des autorités. Après qu'il se fut arrêté, l'homme absolument muet qui était aux rênes de cette étrange charrue désormais immobile, descendit de celle-ci et alla poser ses deux pieds sur un rocher plat qui se trouvait à quelques mètres de lui. Il fit quelques gestes et oui, il était en train d'user de magie. Il commanda le rocher sur lequel il était perché, le faisant quitter le sol, s'en servant comme d'une plateforme, d'un ascenseur, pour se rendre, voyez-vous, sans effort, au sommet de la montagne. De sa magie puissante, une fois le lieu haut perché atteint, il posa le rocher volant sur le sol sans aucun choc, avant d'en descendre calmement, tout en regardant aux alentours, scrutant comme possible en ce sommet brumeux. Et soudainement, il entendit un bruit approchant, tandis qu'une silhouette se dessinait peu à peu au travers de la brume grisâtre. Et c'est alors qu'il put enfin la distinguer clairement, et qu'il découvrit que son comité d'accueil était en fait une autruche. Ah, mais pas n'importe quelle autruche, hein, chers auditeurs. Il s'agissait bel et bien de la fillette très très moche, oui. Je suis comme vous, hein, je pensais qu'elle était morte de faim et de soif, seule au sommet de cette montagne. Mais en fait, non. Voyez-vous, cette bougresse, à force de traîner là, avait fini par trouver la grotte du mage, endroit où celui-ci stockait notamment un copieux garde-manger qui avait permis à l'autruche, alias la fillette, de survivre des semaines durant. Et la voilà, tout étonnée de rencontrer un nouveau visiteur alors qu'elle ne croyait plus jamais voir personne en ce sommet désert. Et la voilà donc, espérant une nouvelle fois qu'elle pourra trouver de l'aide et redevenir humaine peut-être. Aussi, elle continua d'avancer vers le sombre étranger, tout en s'affichant aussi mignonne que possible pour lui plaire. Cependant, notre ami le cocher mystérieux n'était apparemment pas venu pour elle. Aussi, d'un geste de la main, il lui décocha une violente décharge d'énergie magique qui propulsa la pauvre autruche complètement paniquée dans le vide. Oui, elle dévala le flanc abrupt de la montagne en roulant sur elle-même comme un tonneau, s'écorchant et se blessant par endroits. Pourtant, bien qu'amochée, par une chance absolument incroyable, elle n'avait subi aucune blessure grave. Et lorsqu'elle se réveillera de son évanouissement quelques heures plus tard, elle pourra se relever et entreprendre de rentrer chez elle pour retrouver sa famille, oui. Et ce sera encore plus tard, alors qu'elle aura emprunté un certain sentier longeant une certaine forêt, que son attention sera attirée par un lointain bruit de porte qui claque, bruit vers lequel elle se dirigera et qui l'amènera jusqu'au bord d'une certaine rivière à la rencontre d'un certain manchot.
Oh, c'était donc ça.
L'encapuchonné sombre bonhomme au sommet de la montagne, quant à lui, avait commencé à visiter les lieux. Se servant d'un sort de bouclier de type R, il chassait la brume autour de lui afin d'améliorer sa visibilité. Et c'est alors, mesdames et messieurs, que cet individu patibulaire qui vous a tant intrigué trouva enfin ce qu'il était venu chercher au terme du long et lent voyage qu'il avait entrepris. À ses pieds se trouvait l'objet de ses désirs, le plan de ses desseins qu'on ne pouvait que deviner machiavélique. À ses pieds donc se trouvait le cadavre du mage, la dépouille de l'homme, que dis-je, du magicien qui fut jadis roi respecté de notre royaume adoré, jusqu'à subir de la part de sa fille l'exil et l'amnésie qu'il avait mené en haut de ce pic rocheux. Son corps, bien que mort depuis pas loin d'un mois, n'était pas fortement décomposé et même relativement en bon état. Tout au plus, sa peau avait un aspect verdâtre, mais sinon ça allait. Hein? Ah oui, c'est vrai, merci. Oui, il y avait en plus de ça l'odeur, j'oubliais. Hein? Cela dit, comme je vous le disais, le corps n'était pas excessivement pourri, donc il ne sentait pas non plus super fort. Hein? Mais bon, cela venait sans doute, à mon avis, principalement du fait que la concentration en oxygène n'était pas très forte hein, au sommet de cette montagne, voyez-vous. Et donc, la décomposition n'avait pu être très avancée. Voilà. L'inconnu se pencha sur la dite dépouille et, après un court instant de réflexion, frappa le sol du poing, exprimant ainsi sa contrariété. Il se leva ensuite lentement et fit demi-tour. Mais, au bout de quelques pas, il s'arrêta net. Il se retourna, fixant à nouveau le cadavre, et resta là à l'observer quelques secondes, en prise à quelques profondes réflexions. Puis, d'un sourire silencieux, il s'en approcha à nouveau. Mais quelle idée diabolique avait pu germer dans son esprit malfaisant, chers auditeurs? Qu'avait donc pu lui inspirer la carcasse décomposée d'un mage qui ne pouvait désormais plus exaucer aucun vœu? Oh mais, il s'était soudain mis à remuer à nouveau les bras, dans une danse ténébreuse exécutée à quelques pas à peine du défunt roi, oui, il invoquait à nouveau la magie. Moultes énergies magico-mystiques se concentraient une nouvelle fois entre ses mains avant de jaillir de celle-ci pour imprégner le corps putréfié. Ce sur quoi, c'était incroyable. Celui-ci se mit à bouger. Il toussota même quelquefois et... Oh mais oui, le sombre cocher venait de ressusciter le roi. Ce mystérieux inconnu n'était donc pas moins qu'un authentique nécromancien. Oui, un adepte des diaboliques arcanes, capable de tromper la mort. Et c'est donc ainsi que l'on pourra désormais nommer cet individu, le nécromancien.
Bonjour maître, comment puis-je vous servir?
Bafouilla le roi mort-vivant qui s'était relevé pour se tenir face à l'homme qu'il avait ramené de l'au-delà. Se tenant impassible devant le zombie obéissant qu'il venait de créer, le nécromancien lui expliqua ses projets.
Altesse, j'ai vent de votre existence ici en tant que mage et suis venu mu par le projet d'absorber votre pouvoir pour l'ajouter au mien en ingérant votre cœur. Mais toute vie l'ayant quitté, et même encore en cet instant, je dois renoncer car cela ne fonctionnera pas.
Oh, mais c'est bien dommage tout ça, c'est tristounet, c'est larmoyant, c'est...
Silence!
Poursuivez donc, cher maître.
Si je ne puis avoir votre magie, je puis cependant acquérir vos pouvoirs royaux et diriger ce pays comme bon me semblera, et ceci pour l'éternité. Vous retournerez donc en votre palais et régnerez à nouveau comme vous l'avez fait autrefois. Il est certain que personne ne contestera le retour et les décisions du roi légitime.
Ah oui, c'est certain, et comme je dis toujours, I got the power et...
Dans quelques jours, je viendrai vous voir au palais. Vous signerez alors votre abdication et me transmettrez le pouvoir. Est-ce bien compris, esclave?
Oui, maître, I got aussi the comprehension et tout ça, hein, je suis un roi quand même. Hein.
Et au nécromancien de lancer un nouveau sort pour téléporter le roi mort-vivant à l'entrée de son château, le faisant apparaître sous les yeux ébahis de ses sujets qui fêteront son retour pendant que le sombre cocher reprendra la route dans son imposant véhicule pour arriver au château deux jours après.
Oh là! soldats étrangers, veuillez vous éloigner de notre roi et décliner votre identité. Qui êtes-vous ?
Oui, nous sommes de retour au château du roi. Et malgré l'ordre du capitaine Prinkles, le nécromancien n'avait pas bougé. L'odorant souverain, quant à lui, avait déjà pris en main le parchemin, et voilà qu'il le signait, avant de le rendre à son maître diabolique. Celui-ci le reprit brusquement, lui qui était désormais officiellement devenu le nouveau monarque.
Et voilà, mon bon maître, y a-t-il autre chose pour votre service ? Un petit massage, peut-être ?
Non.
Et au sombre encapuchonné de mettre en pièces son serviteur zombie à l'aide d'une nouvelle puissante décharge d'énergie magique.
Oh ! Crève ! Pourriture de régicide !
Le nécromancien stoppa net la course du valeureux chef de la milice en le frappant mortellement d'une autre décharge, avant d'offrir le même sort au pauvre ministre Gonzague. Dans le même temps, le prisonnier Penisio avait profité de ses diversions pour s'enfuir à toutes jambes, courant les bras liés dans son dos et empruntant une petite porte entrouverte qui se trouvait non loin de lui. Ce qu'il ignorait, c'est que la dite entrée menait justement à l'oubliette, fossé qu'il ne vit point à cause de l'obscurité et dans lequel il tomba pitoyablement. Il y agonisera 2 jours avant de mourir, le corps percé par ses nombreuses os brisées. Parallèlement, le nécromancien était en train d'évacuer les quelques restes du corps du roi gisant encore sur le trône, pour ensuite s'y asseoir triomphal et satisfait, rêvassant désormais à son règne débutant. Mais c'est alors qu'un cri strident le fit sursauter. Oui, chers auditeurs, c'était incroyable. Notre amie l'autruche, alias la fillette très très moche, avait surgi en ces lieux et n'était pas moins qu'en train de foncer vers le sorcier, sans aucune hésitation, semblant bien décidée à lui faire payer ses crimes. Alors que, un bref instant, le machiavélique cocher put, malgré ses pouvoirs, ressentir la crainte face à cette menace, un autre son retentit soudain dans la majestueuse salle. C'était incroyable, un coup de feu détonnant venait d'être tiré. L'autruche s'écroula raide morte aussi sec, sous le regard surpris et aux pieds de sa royale cible qui ne comprit pas. Mais c'est lorsque le nouveau roi en question leva les yeux qu'il ne put que tressaillir, chers auditeurs, car ce qu'il vit dépassait tout ce qu'il avait pu anticiper en fomentant ses plans. Voyez-vous, mes fidèles admirateurs, notre royaume qui était lointain sans l'être, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus encore vraiment l'Antiquité, et qui est un sol propice à la poussée des carottes, avait une particularité unique, oui. Un phénomène atmosphérique, voyez-vous. Il arrivait que, fût-ce à cause de champs magnétiques ou de courants énergétiques se trouvant dans l'air du dit pays, certains sorts puissants, lorsqu'ils étaient jetés, débordaient de la trajectoire qu'on leur avait donnée, pour s'étendre de manière incontrôlable. Cela s'était d'ailleurs produit, souvenez-vous, lorsque la sorcière Marianne avait lancé son sort de transformation sur le pauvre Frédéric, le sortilège s'étant accidentellement répandu sur un quartier de la ville capitale, changeant en port tous ses habitants et provoquant ainsi le trépas de la catin Véronique. Il s'avérait manifestement que, encore une fois, cela s'était produit. Le sort de résurrection qu'avait lancé le nécromancien 2 jours plus tôt s'était étendu. Car ce que le dit protagoniste vit face à lui ne pouvait que le confirmer. L'autruche venait de se faire tuer par un zombie tuant un fusil. Un zombie, oui, qui venait d'entrer en gémissant dans la salle du trône par la grande porte. En y regardant mieux, on pouvait... Oui, vous le reconnaissez, il s'agit de Charles, le chasseur nul. Lui aussi avait été ressuscité par le sort et... Aux zombies de sa femme d'entrer à son tour. Et puis César, le comptable frigide avec les tripes à l'air. Puis le petit Amédée encore tout potelé. Puis Al-Ed, le voleur pourrissant et rampant sur le sol à cause de ses os brisés. Et puis le zombie du scribe, du soldat Wesh, et même de la princesse assassinée. Et voilà aussi Carry vivant, ce qui explique d'ailleurs la présence de l'autruche qui le suivait depuis la rivière.
Damnation, mais quel est ce délire ?
Et autour des cadavres du ministre et de Prinkles de se relever avant de se joindre à la masse des zombies. Le sort du nécromancien s'était bel et bien propagé dans l'air, réveillant tous les morts récents du royaume, et par résonance, permettant même d'agir encore malgré qu'il fût lancé 2 jours auparavant. Une intense inquiétude prit le ventre du sorcier quand il constata que tous les morts vivants désormais amassés convergeaient vers lui. Il tenta de les contrôler, leur ordonnant de reculer comme il aurait pu le sommer au roi zombie, mais rien n'y fit. La partie du sortilège garantissant l'obéissance avait été perdue. Seule l'action de résurrection avait été propagée. Et furieux d'avoir été réveillés de leur trépas, les zombies semblaient bien décidés de faire payer celui qui les avait fait revenir, d'où leur réunion en cet endroit. Il faut les comprendre, voyez-vous. Ceux qui étaient au paradis étaient probablement en train de rater le concours de crêpes, la course en sac, ou même le marathon d'Harry Potter, tandis que ceux condamnés à l'enfer, étant sur Terre, vivaient du temps où ils ne purgeaient pas leur peine, et qui plus est donc, étaient comptés comme de la désertion, ce qui les exposait à des sanctions sataniques. Désireux donc de retourner vite à leur tombe, ils avançaient tous, titubants, mais déterminés, pour Oxyre, le nécromancien. Celui-ci, acculé, se préparait à se défendre à coups de magie, et il aurait pu y parvenir si, sans prévenir, le zombie d'un horrible blob pustuleux ne lui avait pas, à cet instant précis, sauté dessus par derrière pour le plaquer au sol. Rendu ainsi impuissant, le tyran fut sauvagement mis en pièces par les morts vivants. Ceux-ci s'écroulant ensuite sans vie dès que leur proie eut rendu l'âme dans son dernier soupir. Au dehors, la vapeur orange se dissipa, et les gardes, sortant de leur torpeur, purent investir la salle du trône, mais ne pouvant alors que constater le carnage déjà révolu. Le lendemain, l'ancien régent fut unanimement réélu à son poste de souverain par intérim, et c'est ainsi que cette histoire put être écrite au passé décomposé, et que le royaume continua à vivre en paix, pour un temps en tout cas.
Moralité de l'histoire.
Si vous ne voulez pas un jour être un zombie, faites-vous incinérer. Ha, ha, ha.